WGR, la radio des grands reporters et des écrivains voyageurs.
Visa pour l'image 2014. Gaëlle Turine. Un entretien réalisé par Michel Puech.
Membre de l'agence Photo Vue, Gaëlle Turine vit à Bruxelles. Il est lauréat du prix AFD et présente à Visa pour l'image Le mur et la peur. 3200 km de murs et de barbelés séparent l'Inde du Bangladesh, coupe famille, village, rivière et ville en deux. C'est le plus long mur du monde. Personne ne connaissait son existence, les deux pays concernés se taisent. Gaëlle Turine a travaillé 2 ans pour nous le faire découvrir.
Je voulais photographier, j'ai tenté de photographier et d'enquêter sur les conséquences de l'existence d'un tel mur entre deux pays qui ont quand même un passé commun et puis les choses ont plutôt mal tourné entre les deux pays, mais on a affaire à une frontière extrêmement complexe et la décision des autorités indiennes d'ériger un tel mur a engendré toute une série de conséquences et de problèmes assez dramatiques, notamment du côté bangladais. Et voilà, ça c'est le sujet de ce travail.
3200 km de mur, c'est le mur le plus long du monde, non ?
Oui, certainement. Non, on peut l'affirmer, c'est le mur le plus long du monde, sans aucun doute. La frontière fait 4000 bornes et les 800 km restants sont des rivières et cours d'eau qui font office de frontières naturelles, mais qui sont tout aussi sévèrement gardées que les kilomètres de mur. Donc ces rivières, ces fleuves et cours d'eau sont de véritables murs également, étant donné le nombre de soldats indiens qui surveillent, puisque c'est un contingent de 220 000 hommes qui est destiné à la surveillance de ce mur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a continuellement ce nombre de soldats, mais on estime à une moyenne de 70 000 hommes en permanence le long du mur. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait comme nombre de surveillants par kilomètre, mais c'est absolument effarant. Et il se fait que... Voilà.
Ils ont commencé cette histoire, donc, pourquoi et quand ?
Alors en fait, c'est le chantier a démarré en 93, mais ça faisait plus de 10-15 ans que les gouvernements indiens successifs voulaient entamer la chose. Il se fait que ériger un mur comme ça ne se fait pas comme ça, donc il fallait trouver des financements. À l'heure actuelle, le mur a coûté 4 milliards de dollars, sans compter les frais de réparation, parce qu'on est dans des régions où le climat est extrêmement virulent et donc entame facilement des kilomètres de fils de fer barbelé qui ne demandent qu'à rouiller, qu'à sauter et qui sont coupés aussi par les gens qui veulent passer, etc. Mais ça, on reviendra là-dessus plus tard. Donc c'est en 1993 que le chantier a démarré et le gouvernement indien a toujours justifié l'érection d'un tel mur frontière par la volonté de protéger le pays contre l'incursion de groupuscules islamistes agissant en Inde, donc dans certains états indiens, majoritairement musulmans, qui ont des tendances et des velléités indépendantistes. Et le gouvernement indien, Delhi a toujours considéré que le Bangladesh servait de base arrière logistique à ces groupuscules islamistes. Donc, stop à ces incursions islamistes terroristes. Personnellement, j'y crois pas trop. Une autre chose qui, par contre, là, est une réalité, ce sont les vagues migratoires économiques bangladaises qui se sont succédées de façon assez intensive. Et moi, je ne considère pas que c'est une raison suffisante, nécessaire. Il n'y a aucune raison qui justifie l'érection d'un mur. Mais Delhi a appuyé sur ce bouton-là pour avoir l'approbation générale de l'ensemble des partis politiques et du peuple. Parce que, bon, l'Inde est un pays où règne un nationalisme fort, très ancré, très populaire, très puissant. Et bon, c'est sûr que là, ils ont le tapis rouge. C'est un sujet qui nous permettait quand même d'avoir l'aval absolu de, voilà, des masses populaires. Donc, je dirais que ça, ce sont les deux principales raisons. Incursion islamiste terroriste et vagues migratoires économiques, auxquelles se sont ajoutées des vagues migratoires environnementales. Hein, parce que le Bangladesh, c'est quand même le pays par excellence qui souffre des changements climatiques. Et donc, les populations qui vivent dans le golfe du Bengale sont obligées de remonter vers le nord. Alors, c'est en général des vagues qui vont vers, qui se dirigent une migration urbaine, vers les grosses villes, notamment vers Dhaka. Mais qui se dirigent aussi parfois plus au nord. Mais plus au nord, ils sont bloqués par un mur. Et donc, en fait, il y a une pression démographique le long de la frontière, parce qu'auparavant, les gens pouvaient passer. Jusqu'en 93, des gens passaient d'un pays à l'autre. Là, en 93, début du chantier, donc voilà, ça, c'est devenu extrêmement, extrêmement problématique.
Vous dites que vous ne croyez pas aux menaces islamistes. Bon. Pourquoi vous n'y croyez pas? Il n'y a pas de raison ou...
Non, non, je crois aux menaces islamistes parce qu'on, par contre, ce à quoi j'attribue...
Dans cette région,
dans cette région. Non, non, ce à quoi j'attribue moins de crédit, c'est l'accusation de délit à l'égard des autorités bangladaises qui tolèrent sur leur sol l'existence, les bases logistiques de ces groupuscules islamistes. Là, j'ai personnellement plus de doutes qu'effectivement il y ait des groupes islamistes terroristes qui agissent en Inde. Oui, ça c'est un fait. C'est eux qui ont fait sauter certains gros hôtels et commis quelques attentats, etc. Mais je ne pense pas qu'ils soient basés au Bangladesh. Mais c'est une des deux raisons avancées par Delhi pour justifier l'érection du mur.
Et alors cette séparation, ce mur, crée quel problème à la population locale ?
Alors, le principal problème est que c'est une région dans laquelle les mouvements de population sont, ont toujours été, je dirais, presque naturels. Donc il faut imaginer que, en fait, c'est cette grande région du Bengale qui a été séparée en deux en 1947, lors du dessin de la frontière avec la chute de l'Empire britannique. Et ce Bengale indien a été séparé de son frère, de ce qui allait devenir plus tard le Pakistan oriental et puis le Bangladesh. Donc, les mouvements de population de cette grande région du Bengale, elles étaient intrinsèques au type de population qui y vivait, c'est-à-dire les Bengalis. Mmh. Et puis, tout d'un coup, il y a une frontière qui est venue s'installer. Donc, il y a notamment, on le voit dans le livre et dans l'exposition, des villages qui ont été littéralement coupés en deux. C'est-à-dire que des familles ont été séparées, des communautés villageoises, même des villes. Hein, il y a des villes où il y a un mur qui traverse. Il y a des photos où on voit le mur de briques sur 4 mètres de haut. Je pense qu'il y a un flou de conséquences. C'est que, bien sûr, les Bangladais, ils ont toutes les bonnes raisons de passer en Inde. Pour aller chercher du boulot, pour essayer d'inscrire son enfant dans une école un tant soit peu potable, pour essayer pour avoir des accès aux soins, mais surtout pour trouver du boulot. Et l'existence de ce mur les empêche de pouvoir aller chercher ce travail, même des petits boulots. Hein. Oui. Les cerveaux bangladais ne partent pas, l'élite bangladaise ne part pas en Inde. Ce sont les petits gens, en gros, comme on dit, qui ont besoin de boulot. Et les villageois, une fois que cet accès à l'Inde leur est interdit, le champ des possibles se réduit à peu de choses. Vraiment, c'est assez dramatique. Et puis les conséquences, c'est qu'on a surtout des forces armées, et surtout la force armée indienne, donc la fameuse Border Security Force, qui a une politique hyper répressive et très très violente. Et ça fait régner un climat de tension dans la région qui est assez...
Oui, il y a des photos tout à fait étonnantes qui quelque part rappelle le mur de Berlin, où on voit des gens qui sont là derrière le, derrière le mur en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ou de voir qu'est-ce qui se passe. Vous avez rencontré beaucoup de familles comme ça qui ont des liens de l'autre côté qui ne sont séparés?
Oui, alors dans l'exposition, là, il y a deux photos de personnes qui une partie de la famille est de l'autre côté. Comment on dit ? Alors, ce sont dans les deux cas, ce sont des familles que j'ai rencontrées en Inde, qui ont une partie de leur famille devenue bangladaise plutôt. Ouais. Alors, dans un cas, il y en a qui entretiennent les liens et qui se donnent rendez-vous sur des points frontières officiels. Il y en a quelques-uns le long de ces 4000 km de frontières. Ils donnent rendez-vous et en général, c'est plutôt la famille indienne qui donne des choses, des objets, un peu de bouffe, des vêtements, etc. À leurs cousins restés de l'autre côté, enfin qui sont de l'autre côté. Et j'ai rencontré également un homme qui, lui, a décidé de couper les ponts avec sa famille parce que il est propriétaire d'un petit commerce dans un village du côté indien. Et le fait qu'il soit commerçant et ayant des cousins et oncles, etc., du côté bangladais, la BSF, donc la fameuse Border Security Force, l'accusait systématiquement de faire du trafic avec ses cousins bangladais. Accusation qu'il a toujours réfutée, mais les pressions devenaient tellement insupportables. Je pense qu'il y a eu du passage à tabac, mais ça, il ne me l'a pas dit. Enfin, il me l'a fait sous-entendre, etc. À un moment, il a préféré... couper les ponts avec sa famille bangladaise pour pouvoir mener son petit commerce. On parle d'un petit commerçant de village, hein, on n'est pas en train de parler d'un patron de grand magasin. Et donc voilà, lui, il a fait ce choix-là parce qu'il a besoin de vivre, il a toute une famille à nourrir, il ne peut pas se permettre de mettre à mal son commerce et pourquoi pas même. Enfin, ça peut aller jusqu'à des problèmes physiques parce que la BSF est hyper violente. Donc. J'ai rencontré quand même plus d'une personne qui a été tabassée, torturée par la BSF, qui aujourd'hui, c'est des gens qui ne peuvent plus bosser parce qu'ils ont perdu l'usage de tel ou tel membre, ou parce que, comme on sait dans la région qu'ils ont eu des problèmes avec la BSF, du coup, les gens ne veulent plus faire d'affaires avec eux parce que sinon, eux-mêmes risquent d'avoir des problèmes avec la BSF. Enfin, voilà, les choses vont très vite. Ça, c'est la conséquence de l'existence d'un mur. Enfin, surtout d'une force répressive aussi.
Comment êtes-vous arrivé à vous intéresser à ce mur? Quel était le facteur déclencheur?
Je voulais travailler sur la notion de séparation entre les pays, si possible sur une zone où avait été érigé un mur. Et j'avais d'emblée écarté les murs qui avaient été fort couverts. On peut penser au mur israélo-palestinien, américano-mexicain, Chypre, l'Irlande du Nord, la Corée. Enfin, il y en a quand même quelques-uns dont on parle beaucoup depuis longtemps. Et c'est en faisant des recherches sur Internet que je suis tombé sur une vidéo absolument insupportable qui dure un peu plus de 11 minutes. Et on voit un gars habillé que des soldats déshabillent. Donc il se retrouve nu et il se fait tabasser. Alors c'est sur YouTube. Et en fait je comprends que c'est un des soldats. Parce que j'ai un ami indien, je comprends que c'est... Enfin, je reconnais le type de visage, puis je reconnais la langue, je dis, ça c'est en Inde. Et puis en fait, je demande à un ami indien de venir à la maison, de traduire ce qui se dit. Tout ça est... Et en fait, je comprends que c'est un des soldats de la BSF qui filme ses copains en train de tabasser le pauvre petit, le petit bangladais, parce que c'est vraiment le cas. Donc du coup, je fais les recherches, etc. Et je découvre l'existence de ce mur dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie. C'est là que je prends la mesure de sa longueur, des chiffres assez dramatiques en termes d'exactions en tout cas, et je décide d'entamer un boulot sur ce mur. Donc personne ne parle.
Quand vous dites des chiffres dramatiques,
par exemple, les chiffres officiels, hein, donc non contestés par les ministères des Affaires intérieures et des affaires militaires, tant du côté indien que du côté bangladais, un chiffre fait état d'une moyenne de 1 mort tous les 5 jours depuis 10 ans. Ce qui en fait le mur le plus sanglant, le plus dangereux de tous les murs de séparation du monde.
Donc vous voyez cette vidéo et vous creusez évidemment le sujet pour comprendre.
J'ai retrouvé l'homme.
Vous avez retrouvé l'homme ?
J'ai retrouvé l'homme. C'est ma dernière journée de prise de vue de mon deuxième voyage. J'ai retrouvé l'homme, il habite dans un petit village, mais perdu au fin fond, vraiment au fin fond du Bangladesh. Là, hein. Il faut vraiment aller chercher. Et c'est une rencontre très 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 forte, très très émouvante, parce que c'est la première fois que un journaliste étranger venait lui poser des questions sur son histoire. Il ne comprenait pas comment j'avais pu débarquer là. Il sait que sa vidéo est sur YouTube. Et ça, c'était intéressant, parce que c'était un gars qui a un peu plus de 20 ans. Et alors nous, on sait à Paris ou ailleurs, ici, en tout cas en Europe, quand des jeunes mettent des vidéos sur YouTube, on sait les conséquences que ça peut avoir sur la vie d'un lycéen, etc. Là, on parle d'un petit paysan bangladais qui habite au fin fond de nulle part et qui me dit, moi, sur cette vidéo sur YouTube, elle a détruit ma vie, peut-être plus que ce que les soldats de la BSF m'ont fait subir. Parce que cette vidéo sur YouTube m'empêchera d'avoir une famille, parce qu'il n'y a pas un homme, il n'y a pas un père de famille qui va accepter de donner sa fille à un homme qu'on a vu nu se faire tabasser par les gens de la BSF. Je ne peux plus circuler dans des grosses villes parce que c'est une vidéo, et effectivement, les visions se sont faites par millions au Bangladesh. Il faut dire qu'il y a 140 millions d'habitants au Bangladesh, donc les chiffres vont vite. Quand il y a une vidéo pareille qui circule sur le net, ben les Bangladais quand même s'en emparent et la regardent. Donc, et il m'a dit, moi quand je vais en ville, pour aller chercher du boulot ou autre, ben tout le monde me regarde et je tiens pas le coup. En fait, je rentre tout de suite chez moi et voilà.
Donc vous découvrez cette vidéo, et vous décidez de faire ce sujet, en fait, d'aller voir. Donc comment ça se passe là ?
Alors très concrètement, quand je suis arrivé à Dakar, je me souviens des. Bon, il se fait que j'ai un ami et collègue photographe de l'agence Vue, Mouné Moissif, qui vit à Dakar, qui est un gars que j'apprécie beaucoup et qui fait un très 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 bon photographe. Puis on se voit. Et déjà par mail, il m'avait dit « Bonne chance, mais je pense que là, tu t'attaques à difficile. » Et voilà, bon, il était assez pessimiste. Et puis je rencontre d'autres photographes sur place et des journalistes qui me disent « On s'est tous cassé les dents. » Et notamment Shahidul Alam, qui est un illustre photographe bangladais, qui a créé une agence de presse sur place, etc., qui lui avait tenté de faire un boulot, et au troisième jour sur la frontière, il s'est fait arrêter, il a passé des journées en prison, ça a fait tout un esclandre au Bangladesh, etc. Donc, effectivement, sur place, j'entends et je déchante un petit peu. Parce que là, je me rends compte que ça va être très, très, très périlleux. Puisque, en fait, de part et d'autre de la frontière, il y a une zone interdite. Tout à fait informelle, mais qui est... on ne peut plus surveiller par l'armée. Bangladesh du côté bangladais et indienne du côté indien. Donc, compliqué. Et finalement, je rencontre des activistes... D'une organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme, des droits humains, qui s'appelle ODIHCAR. Et là, le président fondateur d'ODIHCAR me dit on a besoin que cette histoire soit relayée, on a pondu un rapport. Il me donne un rapport sur lequel je vois le logo Human Rights Watch. Et je comprends qu'en fait, voilà, le rapport que j'en ai, qui fait 60 pages, a été corrigé, validé par Human Rights Watch, etc., etc. Donc là, ça a la consistance. Oui. Et il me dit, je vais te mettre en contact avec notre réseau de ce qu'on appelle nos fact-finders, qui sont des gars du terrain, en général tous des journalistes locaux, qui travaillent pour des petits canards à gauche, à droite, au Bangladesh, qui connaissent bien le sujet, qui connaissent le terrain. Et il m'a dit, sans eux, tu ne rentreras pas dans la zone interdite et jamais une famille de victimes acceptera de te parler. Donc, je me lance dans le périple le long de la frontière et là, sur les différents points frontières sur lesquels j'ai été, lors de mes deux voyages bangladais, je passe d'un fact-finder à l'autre qui chaque fois trouve le moyen de nous emmener dans la zone interdite. Alors là, on joue à cache-cache avec l'armée. Bon, on s'est fait arrêter quelques fois. On a eu plus ou moins des problèmes, mais sans que ça mène à des situations vraiment périlleuses et dangereuses. Il ne faut pas exagérer. Et finalement, ces fact-finders, ces fameux activistes, me présentent et m'introduisent auprès de familles de victimes qui acceptent de me raconter l'histoire parce que je suis présenté par cet homme. Et voilà, donc c'est une succession de rencontres, voilà, grâce à ces activistes, membres de cette ONG, à qui je dois tout, parce que sans eux, jamais j'aurais pu réaliser ce travail.
Donc deux voyages côté Bangladesh, et après vous décidez d'aller côté indien.
Voilà, parce que la grande difficulté du côté, qui est-ce qui tire ? Ce sont les soldats indiens, qui tirent sur ce qui approche du mur. Donc il est impossible d'approcher de ce mur. Mais vraiment, physiquement, c'est impossible de s'en approcher, à moins de prendre d'énormes risques. Alors j'ai certainement des collègues qui auraient été en rampant de nuit dans les rizières. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Je tiens ma peau. Et j'ai des enfants. Et bon, il y a d'autres, il y a plein de raisons. Donc je rentre de mes deux séjours bangladais. J'ai, je pense, beaucoup d'images. J'ai réussi à travailler sur les communautés religieuses, notamment sur les communautés hindoues, de religion hindoue, mais qui vivent au Bangladesh. Je travaille sur les migrations depuis les zones frontalières vers les villes. Enfin bon, je pense avoir quelques chapitres intéressants. Mais il me manque la présence militaire. Il me manque le mur. Je n'ai pas une seule photo du mur. Donc c'est un peu compliqué de parler d'un mur quand on ne voit pas le mur. Et là, je décide d'aller du côté indien. Et là, c'est encore plus compliqué parce que pour s'approcher du mur, il faut aller près des soldats qui tirent. Mais on est du bon côté, entre guillemets. On ne sera pas tiré dessus. Par contre, il y a des soldats partout. Et là, c'est d'autres intermédiaires qui connaissent très, très bien la région qui vont rendre la chose possible. Ce boulot est certainement celui sur lequel il y a eu le plus de temps de préparation, de jeux de cache-cache, de rendez-vous, de transport, d'attente, etc. Chaque prise de vue et la cerise sur le gâteau est presque un cadeau, tellement on a passé du temps à échafauder des plans pour pouvoir approcher un village, rencontrer une victime, aller sur le mur. Non, mais c'est absolument effarant. Mais par contre, souvent, lorsque les prises de vue étaient possibles, on se retrouvait dans des situations particulièrement intéressantes. Parce que c'était sans doute le fruit de... Et du côté indien, voilà, on a trouvé le moyen, quand je dis on, c'est mon fixeur et moi, avec l'aide de ces fameux intermédiaires, à approcher deux endroits où il y a des murs de briques, excuse-moi, et quatre ou cinq endroits où il y a la clôture. C'est une fameuse double clôture de fil de fer barbelé. Et voilà, c'est d'où le chapitre indien, absolument indispensable pour photographier là aussi les conséquences, mais surtout la présence militaire, le mur, les gens qui passent. La couverture du photopoche, ce sont deux femmes qui passent la frontière, elles grimpent le mur. Du côté bangladais, si je fais cette photo, je me prends une balle sur le front. Donc il fallait absolument que j'aille du côté indien.
Combien de temps de travail ?
En tout, c'est deux ans de travail.
Deux ans de travail.
Voilà, deux ans de travail. Deux ans de travail, préparation, voyage. Ouais, deux ans de travail.
Le résultat, c'est un prix AFD, une exposition à Visa pour l'image, ce livre que nous avons dans les mains, le photopoche Société, le mur et la peur, d'autres expositions.
Oui, il y a une exposition à Bruxelles, il y aura une exposition à Paris à la galerie Fête et Cause en février 2015. Et puis finalement, le sujet a quand même été relayé par la presse. Dans un premier temps, je n'ai pas bénéficié de leur soutien. C'est-à-dire qu'avant de trouver des bourses de travail qui m'ont permis de voyager là-bas, je me suis d'abord adressé à la presse. Je suis un photographe de presse, je suis un photojournaliste. Mais ils ne se sont pas trop engagés là, sur le coup. Par contre, voilà, une fois que le sujet existe, eh bien, il y a eu des débouchés. Géo a publié, publié ce mois-ci d'ailleurs, donc dans le numéro du mois de septembre, 16 pages sur le mur. Bon, ben voilà, il y a des magazines italiens, il y a des américains. des Belges, des Hollandais. Enfin voilà, ça, finalement, il y a aussi ça, des publications. Il fallait que cette histoire soit racontée quand même, à un moment ou à un autre. Bien parce sûr. Qu'un livre et une expo, c'est bien, mais voilà, il y a encore le relais presse quand même.
Mais donc, vous n'avez pas eu d'aide financière avant de partir de la presse ?
De la presse, il n'y a pas eu de soutien. Je pense que ça tient du fait que, d'abord, très franchement parlé, il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas un éditeur photo, il n'y a pas un rédacteur en chef qui ait jamais entendu parler de ce mur. Donc, ils étaient assez surpris. Alors d'un côté, c'est « mais quelle histoire géniale, incroyable, il faut qu'on fasse quelque chose ». Oui, mais quand même, attends, parce que si on n'a jamais vu une image sur un truc pareil, c'est que c'est pas possible de le réaliser, ou alors c'est qu'il existe à moitié. Voilà, je me suis souvent retrouvé face à un réel intérêt et un vif emballement. Par contre, de là à se mobiliser, notamment financièrement, ça devenait plus compliqué, parce que je crois qu'il y avait beaucoup de méfiance, ou non, pas de méfiance, d'appréhension à la possibilité que je puisse réellement faire quelque chose. Et je comprends, parce que moi-même, je suis parti là-bas vraiment en me demandant si j'allais pas me prendre un râteau phénoménal. Parce que, je veux dire, un mur pareil et un sujet comme celui-là, j'ai mille et un collègues qui auraient fait ça très très bien, même peut-être même beaucoup mieux que moi. Il se fait qu'ils ne connaissent pas l'existence de ce mur. Bon, voilà, heureusement que j'ai eu la bourse...
Quelle bourse ?
Alors, j'ai eu la bourse du Festival de Saint-Brieuc, il y a 2 ans, et puis une bourse du Fonds pour le journalisme à Bruxelles.
Le photojournalisme, vous y êtes arrivé comment ? Quand ?
Moi, j'ai des parents qui sont cinéastes documentaires et qui font de la radio documentaire. Je dirais que c'est presque par réaction à l'égard de mon père et de ma mère que je me suis dirigé vers la photographie, parce qu'en fait mon rêve absolu c'était de faire du cinéma documentaire, que je considère encore aujourd'hui comme bien plus riche que la photographie documentaire, mais je ne peux pas aller sur le terrain de mon père et de ma mère, sinon là je prends 10 ans de psy là au passage. Donc je me suis émancipé de ça. Mais c'est vrai, très sérieusement, j'ai vraiment fait le choix parce que quand j'ai eu 18-20 ans, j'ai entamé les études de Sciences Po. Alors j'ai fait 2 ans, passionnantes, mais très ennuyeuses. C'est pas les années de Sciences Po qui étaient ennuyeuses, c'est moi qui m'ennuyais parce que moi j'avais envie d'être sur le terrain, j'avais envie de voyager, etc. Et donc je suis parti 6 mois à Madagascar, je suis rentré, j'ai fait une petite expo de photos comme ça, et puis... j'entendais les retours et je me suis dit, mais je vais faire une école de photo, moi, j'ai envie de devenir photographe. Je ne peux pas être cinéaste documentaire, je ne peux pas faire de radio, c'est pas possible, pas comme mon père, pas comme ma mère. Donc, enfin, voilà, c'est vrai que j'étais assez obsédé par cette idée-là. Et donc, un peu par défaut, je me suis dirigé vers la photographie.
Et vous avez fait une école ?
J'ai fait l'école à Bruxelles, qui est une école... en tout cas à l'époque, avait comme axe pédagogique principal plutôt la photographie documentaire, bien plus que la photographie plasticienne ou publicitaire, etc. Donc elle me convenait.
Laquelle ?
L'école du 75.
Ah, le 75, à Bruxelles.
Le 75, voilà, 75 oui. À Bruxelles. Et en fait, dès la première, on était amené à devoir faire des stages. Alors, tous mes compères de classe, ils allaient en général dans un labo photo, etc. Et puis, moi, j'ai été voir une ONG, je leur ai dit, voilà, j'ai envie de voyager. Et il se fait que c'est Médecins du Monde France, donc à Paris, qui m'a dit « Ah, on a besoin d'un photographe en Afghanistan ». Alors, c'était... là, on remonte à la prise de Kaboul par les talibans. Donc, je me suis retrouvé pendant 6 semaines à Kaboul dans un truc qui me dépassait complètement, mais dans lequel j'ai travaillé, j'ai ramené des images. Grâce à ces images, l'année suivante, c'est Médecins Sans Frontières qui m'a envoyé en Angola. C'était la guerre civile. Grâce à ces images, l'année suivante, en troisième, j'ai été voir une troisième ONG qui m'a envoyé en Érythrée, qui venait d'accéder à son indépendance. Et donc, en fait, à la sortie d'école, je ne vais pas dire que j'avais 3 bonnes séries, j'avais 3 séries d'images de pays quand même qui suscitaient un intérêt, de la curiosité, en tout cas dans les médias. Et donc, voilà, ça m'a permis de ne pas connaître ce grand creux, ce grand vide. Après école, on se dit, mon Dieu, comment on va faire, etc. Les choses se sont enclenchées assez rapidement. Il est évident qu'il y a un apprentissage du métier parce qu'il y a des mécaniques qui sont similaires dans la préparation des projets, dans la recherche des sources et d'informations, la constitution d'un budget, l'écriture d'un synopsis, etc. Et j'ai été baigné là-dedans. Donc, j'ai...
Une culture générale, une bibliothèque.
Oui, c'est ça, des choses comme ça. Et puis un intérêt pour ce qui se passe ailleurs, pour le monde, pour les situations vécues par les gens, etc. Et donc c'est sûr que ça m'a fortement influencé. Et ça, je l'assume complètement. J'ai épousé la voix de mes parents. C'est une espèce de prolongation, vraiment, du chemin emprunté par mes parents à leur époque et qu'ils pratiquent toujours aujourd'hui.
On démarrait en freelance tout seul et ensuite, comment, pour diffuser, vous n'avez aucune agence
Alors, pendant des années, j'ai fonctionné seul, ce qui, je pense, est un très bon écolage. Ça m'a permis de rencontrer des tas d'interlocuteurs différents, que ce soit l'éditeur d'un livre, des éditeurs dans le cas d'un livre, des curateurs dans le cas d'expo, des éditeurs photos dans la presse, etc. Et ce n'est que bien plus tard, finalement, il n'y a que 5 ans que j'ai rejoint l'agence Vue. Mais je ne regrette, même si c'était un peu compliqué, on se sent parfois un peu tout seul, etc. Mais c'était très très bien de fonctionner seul. Je suis venu ici à Visa pour l'image pendant des années, sans agence derrière moi. Et je pense qu'on apprend énormément sur la mécanique du métier. Et puis on arrive en agence et voilà, on est un peu plus blindé. Je crois qu'on a une meilleure idée de ce qu'on peut espérer en attendre. Et puis des choses... Voilà, qu'il ne faut pas se mettre comme objectif parce que c'est la porte ouverte aux déceptions. Et voilà, je conseillerais aux jeunes photographes de ne pas vouloir rejoindre les agences trop vite. Il vaut mieux faire sa petite popote tout seul, son écolage, et puis à un moment, rejoindre un groupe, quoi.
Merci, Gaël.
WGR, c'est aussi des applications pour iPhone, smartphone et tablette à télécharger sous le nom WGR, la radio.